De retour sur les ondes de KRL Sud 92.2.
Arrêtons-nous un instant sur cette notion d'individu. On ne peut pas comprendre la philosophie de l'anarchisme sans définir précisément ce qu'est l'individu. Pour cela, revenons une fois encore à la Déclaration des droits de l'homme. Quand nous disons les droits de l'homme, nous ne disons pas les droits des hommes. Et c'est cette différence entre le singulier et le pluriel qui pose un problème. Il y a un gouffre entre les droits d'un être humain abstrait, l'homme, qui ne correspond en fait qu'à un concept, et les hommes, les femmes, tous les êtres humains, qui correspondent, eux, à la réalité. L'anarchisme considère qu'il n'y a pas un homme comme il n'y a pas une femme, mais qu'il n'y a que des individus, une multitude d'individus, tous différents, tous singuliers, tous uniques. Et si l'on voulait résumer l'anarchisme en une phrase, on pourrait dire qu'il s'agit d'une philosophie politique qui a pour but de libérer les individus de toute domination sociale. De plus, l'anarchisme ne consiste pas en un plan précis, mais plutôt à avancer par tous les moyens nécessaires vers un horizon libéré de toute forme de domination.
Et donc il y a une autre notion que vous avez souhaité faire un peu émerger, en plus de tout le reste évidemment, c'est cette question de validisme.
Ouais. En tout cas, c'est une question qu'on a envie de mettre au milieu, qu'on a envie de vraiment regarder.
Le validisme est un système de domination qui repose sur la hiérarchisation des corps et des capacités physiques et mentales. Il place les personnes dites valides, celles qui n'ont pas de handicap ou dont les capacités physiques ou mentales sont perçues comme normales, au sommet, et considère les personnes en situation de handicap comme inférieures, souvent en les excluant ou en les marginalisant. Donc une société où tout est pensé par et pour des personnes valides.
En tout cas, c'est une question que j'ai vraiment à cœur de remettre, au cœur de n'importe quel événement, quoi. L'accessibilité, ça va, évidemment, on pense tout de suite fauteuil,
ouais,
etc.
C'est plus visible.
Ouais, c'est ce qui est visible. Après, il y a plein d'autres questions qui se posent. Hein, voilà. L'accessibilité, ça peut être aussi permettre à des gens de pouvoir s'isoler s'ils ont des soucis avec le bruit, la présence, enfin, les lumières, le truc. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on pense pas. Il y a des douleurs qui se voient pas. Il y a des troubles du spectre autistique, par exemple, qui vont amener certaines questions que c'est chouette de prendre en compte. Il y a toutes sortes de handicap visible et invisible. Voilà.
Quelques points du validisme. La hiérarchisation des corps et des esprits. Le validisme valorise les corps dits normaux, souvent en dévalorisant ou en invisibilisant les corps et les esprits qui ne correspondent pas à des normes physiques ou mentales standardisées. Le validisme se manifeste par des barrières physiques, mais aussi par un manque d'infrastructures, de soutien ou de compréhension pour les personnes en situation de handicap. Cela inclut des espaces publics privés non accessibles. Exemple, l'absence de rampes d'accès, de transports adaptés ou d'outils numériques accessibles. Les personnes handicapées sont souvent stigmatisées, non seulement à cause de leurs limitations physiques ou mentales, mais aussi parce que la société considère souvent qu'elles n'ont pas de place dans les discours ou dans l'action collective, y compris dans les luttes politiques. L'inclusion des personnes en situation de handicap dans les luttes militantes est essentielle pour créer une véritable égalité des droits et construire des espaces réellement collectifs et inclusifs. Cela passe par une révision des normes sociales, une prise en compte de la diversité des corps et des besoins, ainsi qu'une accessibilité des espaces militants.
Bah, bravo.
Là, j'ai vu, par exemple, vous proposiez d'envoyer des fichiers son.
Par exemple, on peut ne pas avoir accès à la lecture, et du coup, on n'a pas du tout envie d'exclure les personnes parce qu'ils ne peuvent pas lire ou écrire. Donc du coup, bah, on peut échanger des vocaux, par exemple, voilà. On propose aussi l'accès gratuit, parce que oui, comme ça, on est dans un camping, il y a quand même une participation financière, tout ça. On en reparlera peut-être, mais par exemple, il y a un accès gratuit aux personnes qui seraient des aidantes, un guide, un traducteur LSF, des choses comme ça, des interprètes LSF. On a essayé de penser à des choses comme ça. C'est difficile de penser à tout, et moi, j'ai surtout hâte que ça se passe pour être avec des personnes les plus concernées possible. Moi, je suis concernée par quelques trucs, mais voilà, je vois pas tout forcément. Puis c'est un peu le cas de plein de gens dans l'orga, qu'on discute avec des personnes le plus concernées possible et qui disent, ce qui est important à mettre en place, quoi. Mais une fois de plus, hein, je trouve que c'est visibilisé quand le capitalisme s'en empare, c'est-à-dire que quand les supermarchés se rendent compte que ils perdent des clients parce qu'il y a trop de bruit et de lumière dans leur magasin, hop, et ben ils mettent en place une heure où on peut venir consommer quand on a des sensibilités importantes à la lumière ou au bruit. Ah, et tout d'un coup ça visibilise quelque chose, c'est bizarre un peu. Ouais, voilà. Bon, ben ce serait chouette qu'on le fasse aussi dans des sphères militantes. Ça fait partie un peu des impensés, vraiment comme l'adultisme, des impensés des sphères militantes. Quand on est arrivé à Saint-Imier, par exemple, moi ça m'a vraiment choqué. Moi j'ai un peu quelques problèmes de mobilité et du coup c'est dans les montagnes, c'est très escarpé. Les lieux étaient très loin les uns des autres et il n'y avait aucune solution proposée pour aller d'un espace à un autre. Et du coup, moi je vois très personnellement, il y avait des lieux dans lesquels j'allais qu'une fois par jour parce que c'était juste pas possible de pouvoir... Et je voyais, j'étais accompagnée d'une très jeune personne et du coup, entre elle et moi, on voyait qu'il y a... On allait par exemple manger au réfectoire qu'une fois par jour parce qu'il y avait un dénivelé tel et pas une navette, rien de pensé pour faciliter la mobilité. Voilà, donc c'est un petit truc qui, en tout cas, on voit que c'est un pensé dans des lieux très militants, quoi.
C'est important de rappeler que c'est un système de domination.
Ah, c'est complètement un système de domination. C'est un peu comme des personnes infantilisées à vie, quoi. Voilà. Alors, infantiliser, hop, on peut rebondir sur l'adultisme et tout machin, mais genre, voilà, c'est des gens pour qui on pense à leur place toute leur vie, quoi. Voilà. Bah, et du coup, il y a des personnes qui s'auto-excluent ou qui sont exclues de fait de plein d'espaces, et du coup, comme on les voit pas, ils existent pas, quoi.
Alors, les récits dominants autour de l'autonomie, de la productivité, de la normalité ont tendance à ignorer ou minimiser les réalités du handicap. Donc, ça renforce les stéréotypes, évidemment, et les discriminations. Ça se manifeste aussi dans des attitudes sociales comme la surprotection, les jugements sur l'inutilité des personnes handicapées ou la pensée que les personnes en situation de handicap sont moins valables et moins capables de s'engager politiquement, de contribuer à la société ou de vivre des vies épanouies.
Ou le contraire, parfois, l'héroïsation.
Ouais.
C'est-à-dire que du coup, là, par exemple, il y a les Jeux paralympiques cet été, et puis parce que si on est en situation de handicap, alors il faut être courageux, il faut se dépasser, il faut... Enfin, il y a tout ce discours aussi, et si on n'est pas parmi ceux-là, si on est juste normal, une personne moyenne, voilà, et ben, alors du coup, on n'est même pas... intéressante comme personne handicapée. Enfin, c'est complètement... Voilà, il faut être soit un héros, soit on n'existe pas, quoi. Voilà. Et c'est effectivement très lié à la notion de productivité du corps, quoi. À la capacité de donner sa force de travail, voilà.
Et encore un rapport direct au capitalisme, de toute façon, qui s'en empare, le digère, façonne, en fait.
Sauf quand, effectivement, il peut le récupérer pendant les heures... spécial des supermarchés, mais
et c'est vrai que tu parles d'impensé. J'ai l'impression que, évidemment, il y a l'idée quand t'es concerné directement, t'es plus apte, tu vois, réfléchir au problème, mais que c'est peut-être aussi le début, j'ai l'impression, d'une réflexion, en fait.
Ouais, alors comme je disais, moi je suis pas super experte au niveau de... Enfin, je vois pas tout et je sais pas forcément très bien en parler. Par contre, je sais qu'il y a des collectifs militants de personnes concernées vraiment très chouettes. Et entre autres, par exemple, il y a un collectif qui s'appelle les Dévalideuses et qui fait un boulot justement comme ça pour montrer les structures, les mécanismes dans lesquels on peut être et comment arriver à les changer, à nettoyer nos neurones par rapport à ça. Elles font un super boulot, quoi, par exemple.
L'histoire, au contraire, semble montrer que les êtres humains ont besoin de structures sociales et de hiérarchies pour organiser leur vie en communauté. Mais essayons de penser le problème différemment. Imaginons que le pouvoir ne soit pas uniquement ce qui est extérieur à nous. Imaginons que le pouvoir, l'État, le tyran, soit aussi intérieur à nous, qu'il ait réussi à coloniser nos âmes. Par exemple, quand nous parlons de l'État, nous en parlons comme d'un appareil administratif qui est extérieur à nous. Et en imaginant l'État comme extérieur à nous, nous ne voyons pas que l'État est aussi incorporé en nous, que par l'éducation familiale, scolaire et culturelle que nous avons reçue, les traditions dont nous avons hérité, les lois et les tabous que nous respectons sans forcément les interroger, nous nous faisons nous-mêmes les propres relais des forces qui nous dominent. Si nous prenons conscience de cela, Alors, nous pouvons commencer par détruire au moins une partie de l'État, la partie qui est en nous. La plupart du temps, quand nous respectons une idée, une valeur, une œuvre d'art, une institution, ou bien un régime politique comme la République par exemple, c'est parce qu'on nous a appris à respecter ces choses. Nous ne les respectons pas par intuition, nous les respectons par apprentissage. Et comme c'est l'État qui a établi toutes les normes de notre apprentissage, lorsque nous interrogeons la notion d'État, nous le faisons inconsciemment avec une logique qui reste enfermée dans les schémas de pensée que l'État nous a inculqués et qui finalement profitent à l'État. Pourtant, sans forcément renverser l'ordre social extérieur, l'anarchiste peut commencer par renverser l'ordre social intérieur, l'ordre social qui est en lui, pour parvenir à conquérir l'autonomie de sa propre pensée et de ses propres valeurs. Renverser l'ordre social en soi, c'est faire un pari. Le pari que lorsque l'État cesse d'être ancré en nous, alors nous cessons aussi de le respecter quand il est extérieur à nous, face à nous ou au-dessus de nous. En tout cas, il vaut mieux être anarchiste sans le savoir que de se croire anarchiste sans l'être.
Projets d'ateliers divers et variés qui sont proposés par des participants, participantes, mais aussi... pourquoi pas des petites booms et des karaokés collectifs improvisés, des choses comme ça. Non, c'est vraiment pour du temps fun en vrai, quoi. Place à des grands plannings qui seront affichés et n'importe qui peut venir proposer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Il y a une personne qui propose d'accompagner pour fabriquer des petits rocket stoves portables faits avec... Donc, c'est des petits réchauds à brindilles pour pouvoir faire son café avec les petites brindilles qu'on trouve dans n'importe où, quoi. Et à la campagne, en tout cas. Et c'est fait avec deux boîtes de conserve, voilà, et un peu de sable. Et c'est un super poêle portatif. Il y a des personnes qui proposent des ateliers créatifs, la fabrication d'un fanzine. Il y a des personnes qui proposent des ateliers de podcast. Des personnes qui proposent des petits tournois de foot, du foot adapté, c'est-à-dire du foot sur un petit terrain où on n'a pas... On peut, par exemple, être en fauteuil ou avoir très peu de mouvement. Enfin, on n'a pas à marcher, par exemple. C'est des matchs très courts aussi, des matchs de 10 minutes, 5 sur 5 par 5, voilà, enfin 5 contre 5, pardon. Et du coup, c'est des matchs rapides, voilà, dont on n'est pas trop essoufflé. Moi, je l'ai vu faire, en tout cas, on peut jouer avec des corps très différents. Et c'est super, voilà, c'est vraiment chouette. Il y a une personne qui propose un atelier pour dégenrer l'occitan, les chansons occitanes pour des chorales et de les dégenrer. Voilà, bon, il y a.
C'est super parce que c'est genré, c'est très genré.
Moins que le français, manifestement, mais quand même, il y a des traces, il y a des occitanistes qui viennent et qui ont envie de dégenrer un peu ça. Il y a des balades botaniques qui sont naturalistes, je sais pas. Des trucs où pour apprendre à reconnaître les plantes et ce qu'on peut en faire autour de nous. Il y a du crochet, bien sûr, et tout ça.
La base,
quoi.
Pour vous, c'est quoi la différence entre faire ensemble et faire des choses à plusieurs?
Ah, waouh, je ne sais pas, tiens. Non, mais faire ensemble, ça veut dire, par exemple, se préoccuper du fait que ce qu'on propose, c'est accessible à toutes les personnes présentes, voilà. C'est-à-dire que, quelle que soit notre motricité, notre âge et tout, eh ben, on va essayer de réfléchir à ce qu'on propose. On va pas juste dire... Je le propose pour telle catégorie, mais comment je le rends accessible à toutes les personnes qui auraient envie de participer?
Et ça ressemble à quoi une journée? Ça ressemble à... C'est comme sur l'affiche, en fait.
C'est un peu ça. Avec un peu plus de pluie.
Voilà. Et juste en parlant de l'affiche, est-ce que tu sais le nombre de chats présents sur l'affiche?
Oh non, mince, j'ai pas compté, mais on peut faire un concours comme ça. Ouais, je demanderai à l'illustratrice merveilleuse qui a fait cette affiche.
Il faut juste savoir si ACAB, tu le considères comme faisant partie de un chat ou pas, quoi.
Bah, c'est tous les chats.
C'est tous les chats.
Ça en fait partie, ça en fait beaucoup. Ouais.
Tu parlais de Saint-Dizier là, tout à l'heure. C'est peut-être le début de quelque chose.
On a un peu ce petit rêve derrière la tête que ça serait le début d'une aventure. Une aventure qui se reproduirait régulièrement avec à terme peut-être un espace qui serait inventée de toutes pièces, voilà, et sur un temps un peu plus long. Et ça n'a pas du tout vocation à devenir un village. Hein.
Le village anarchiste.
Ouais, voilà. Mais plutôt visiter un temps, voilà, plutôt des anarchiste. Temps où on vient expérimenter des choses, se confronter à des trucs. Ah mince, voilà, je sais pas trop comment faire quand il se passe tel genre de problématique. Et du coup, là, on essaye des choses qu'on peut essaimer ensuite. Voilà.
Et il vous a semblé important aussi de vous différencier du courant New Age, le développement personnel, un petit peu ce truc un peu capitalisto. Vas-y, tu peux le faire.
Ouais, c'est ça. Qui responsabilise les individus et pas les systèmes, quoi. Voilà. Ben oui, c'est vrai que c'est un truc super important pour nous de se différencier de cette vague-là qui remet tous les problèmes sur l'individu et pas du tout sur les problèmes systémiques. Et pour moi, pour nous, c'est vraiment un espèce de pansement capitaliste qui dépolitise complètement les choses, quoi. Et qui permet à plein de gens en plus de faire beaucoup d'argent sur sur des problématiques liées au capitalisme. Voilà.
Est-ce que l'idée c'est d'en ressortir changé, plus outillé ?
Plus outillé, j'espère. Enfin, on espère vraiment ça. Changé, peut-être. Moi, je crois qu'on ressort plus outillé quand on a senti les choses vraiment en soi, en vrai, quoi. Voilà. Et quand on a vu comment, face à un conflit, on pouvait essayer de faire sans essayer d'écraser les autres, sans ça, quand on l'a vraiment vécu, en vrai, quand on a vraiment parlé avec une personne de 5 ans pour essayer de régler un truc sur lequel on se comprend pas, mais qu'on le fait... dans ce contexte-là, ben, je pense que ça change plein de choses dans nos quotidiens après, ouais.
Et il y a une expression là que j'avais notée, que j'ai vraiment aimée, c'est vous parlez d'être organisé sans vraiment l'être.
Ouais. c'est une vaste blague, on n'est pas très très organisé. mais on ne trouve pas ça très grave. C'est-à-dire qu'on est tous en train d'apprendre des choses, quoi.
Pourquoi avoir fait le choix d'un fonctionnement sans alcool ?
Ouais, ça prête à plein de... Enfin, c'est plein de questions, ça. Alors, l'alcool, il y a plein de choses. D'abord, quand on veut être incluant pour des petites personnes, ben, des gens qui sont alcoolisés, ça peut être très impressionnant pour des petites personnes. Et pas que, hein. Pas que des petites personnes. Moi, personnellement, ça peut aussi me mettre mal à l'aise. Mmh. Mais je veux dire, quand on est petit, il y a d'autant moins d'outils face à ça. Et il s'avère que, pour plein de raisons, ça peut mettre des gens en insécurité et qu'on a envie que le plus de personnes présentes possibles se sentent en sécurité. Et que ça altère un peu ce contexte de sécurité. Alors, c'est une proposition qu'on fait, hein. C'est-à-dire que c'est pas une interdiction, c'est pas interdit l'alcool. La proposition, c'est qu'on essaye sans. On est dans une société où on a tellement de contraintes que s'amuser, c'est souvent lié à une désinhibition qu'on atteint que avec l'alcool ou avec une quelconque substance. Voilà. Et apprendre à s'amuser ensemble sans ça, bah, c'est une super rébellion, je trouve. Enfin, c'est vraiment une déconstruction super importante. Ben, après, dans l'histoire du colonialisme, par exemple, l'alcool, c'est quand même, enfin, au niveau de toutes les sociétés, c'est aussi un super outil de contrôle des populations. Évidemment. Et du coup, c'est chouette de le regarder. C'est chouette de le voir et de le remettre à sa place. Ça veut pas dire qu'on l'interdit. Il y a des gens voilà, enfin, on sait que l'addiction, c'est une maladie aussi. Et par exemple, il y a plein de choses où... Vraiment, moi, j'ai pas de jugement profond sur la consommation d'alcool. Enfin, c'est vraiment... Et ça serait bien... Je serais quand même un peu gonflée d'avoir du jugement sur la consommation d'alcool, voilà. Mais je trouve que c'est intéressant au niveau politique de le remettre en question.
Ouais, carrément, dans les communautés autonomes zapatistes, l'alcool est souvent interdit ou fortement contrôlé. L'interdiction est vue comme un moyen de protection collective contre une domination destructrice, coloniale, comme tu l'as dit, capitaliste et patriarcale. Il insiste souvent sur le fait que l'autonomie passe aussi par la santé, la sobriété, la lucidité. Là, j'ai pris volontairement comme référence, voilà, la communauté autonome zapatiste.
Qui est un très bon exemple.
Qui est un très bon exemple, surtout là-dessus.
Je me rappelle justement que l'idée de l'alcool, c'est vraiment arrivé à Saint-Imier aussi. Tout m'est arrivé à Saint-Imier, c'est génial. Toute la journée, c'était des adultes qui discutaient théoriquement de plein de trucs, des mécanismes de domination. Vraiment, il y avait tout ce truc très fort toute la journée. Et tous les soirs, il y avait des concerts de punk avec plein de bières pour financer l'événement, des gens super sous qui faisaient le contraire de ce qu'ils avaient raconté toute la journée. Et ben voilà, moi, par exemple, j'étais avec une jeune qui avait 14 ans à l'époque. Et ben, la journée, ben, c'était... Bon, après, j'ai de la chance parce qu'elle est... elle venait vachement avec moi et qu'elle était vachement intéressée par les discussions. Mais sa petite sœur, c'était moins facile. Et le soir, par exemple, on avait envie d'aller voir dans les concerts et tout. Ben, à 14 ans, elle n'était pas du tout en sécurité. On a vu des scènes d'une grande violence. Voilà, et des gens qui s'énervent sur leurs chiens et sur leurs meufs et je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et je trouvais que vraiment, il y avait un gros problème de paradoxe, enfin, de grosse dissonance cognitive, là. Voilà.
On va bientôt conclure. Ekiben, tu veux rajouter quelque chose sur l'organisation? On va reprendre un petit peu les éléments factuels.
Ouais. Pour s'inscrire, il faut écrire un mail à l'adresse sur proton.me, je crois. rencontre-plage@proton.me. On peut être en emplacement, tente ou camion, ou dans des chambres, dans des mobilhomes, quoi. Voilà. Il y a plusieurs types d'espaces. Ça se passe du 20 au 26 avril. On n'est pas obligé de rester toute la semaine. On peut venir qu'un petit bout aussi, si on veut. Il y a une cantine sur place qui est végane, avec des options sans gluten. Elle est végane pour plein de raisons éthiques, mais aussi parce qu'au niveau sanitaire, c'est vachement plus facile. Voilà, qu'est-ce
de toute façon, c'est la solution. Hein.
Bah, je vais pas te contredire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? La gare la plus proche, c'est Souillac. Il y a un système de covoiturage. Il y a un lien sur le site pour s'organiser en covoiturage. Voilà.
C'est du 20 au 26 à Cresse, dans le Lot.
Dans le Lot, ouais. Voilà.
On salue nos... Enfin, moi, je salue les... les petites personnes qui me sont proches et la chanson de fin ben voilà et tout est bien trouvée puisque on a passé un super moment à chanter à tue-tête cette chanson il y a deux jours dans une voiture. Si t'as des dédicaces à passer, toi aussi des saluts, tu voilà à l'origine voilà tu devais venir et que quelques personnes voilà, ouais. Qui sont un peu désistées au dernier moment. Mais...
Bah, qui ont eu plein d'impossibilités. Mais voilà, en tout cas, je devais venir avec l'une ou l'autre des petites personnes qui partagent ma vie. Et bah, cette chanson-là, c'est un peu... C'est un grand hymne chez nous, quoi. Voilà.
Tu connais les paroles par cœur aussi. Je laisse le micro ouvert. Ou...
Je parle pas du tout assez vite. Pour...
Quoi, ah ouais, ouais, moi, karaoké collectif. Ça en fait partie.
Bien sûr, karaoké collectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul devant le micro. On est 20 à chanter ensemble, 40, et c'est très, très drôle.
Bon, ça, c'est Diams la boulette. Donc ça, bon, ça fonctionne bien. Hein,
ah bah,
en
ouais,
mode karaoké.
C'est l'école qui a dicté nos codes.
Bien joué. Bah, tu vois, tu dois la faire. Alors. Bon retour. Tu repars vers où, toi?
Bah, je repars le long du chantier de la 69 avec les brins d'herbe qui poussent.
Vive l'herbe. Vive les brins d'herbe. Ah, très bien, tout. Merci d'être venu. C'était super. Tu salues une nouvelle fois hein, tout le crew autour de toi. Pour Libertaire Plage du 20 au 26. À très bientôt.
Merci
beaucoup.
Salut,
à bientôt. Ouais. Ciao, salut. Bon, je te laisse le micro quand même. Pour le début
non,
de.
Non, je vais pas faire ça à mes filles. C'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mes le rap. Voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors, ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mes le rap. Voilà de la boulette. Sortez les briquets, sortez les briquets. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. J'suis pas la mairie, j'suis qu'une artiste en devenir, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le macaire, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Y'a comme un goût de viol quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse à te casser les couilles. J'suis pas les secours, j'suis qu'une petite qui se débrouille, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore.
d'Afrique dans les caisses de la Francia. Comme un goût de démédémago dans la bouche de Sarko. Comme un goût de michto près des Merco. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de chouï saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulette qui sont dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non.
En tout cas, il vaut mieux être anarchiste sans le savoir que de se croire anarchiste sans l'être.